Chers amis, en ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous présente la figure de Saint Jean-Baptiste. Et l'Évangile nous en souligne deux aspects. Le lieu où il vit, le désert, et le contenu de son message, la conversion. Le désert et la conversion. C'est donc sur ces deux termes que l'Évangile d'aujourd'hui insiste et que cette insistance veut nous faire comprendre que ces deux termes nous concernent aussi. Alors laissons-nous saisir par ces deux réalités. D'abord, le désert. L'évangéliste Luc évoque ce lieu d'une manière bien particulière. D'abord, il fait des grandes envolées avec des circonstances solennelles et de grands personnages de l'époque. La 15e année de l'empereur Tibère César, le gouverneur Ponce Pilate, le roi Hérode et d'autres leaders politiques qui règnent sur des régions dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Puis il mentionne les religieux, Anne et Caïphe, qui étaient au temple de Jérusalem. Que de grands hommes! C'est alors qu'il déclare « La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. » Ça ressemble un peu à un soufflet qui est retombé. Nous ne nous attendions pas à ce que la parole soit adressée à ce pauvre petit Jean. Nous attendions peut-être à ce que Dieu parle directement à l'empereur ou au chef religieux. Eh bien non, Dieu surprend nos attentes, ses choix surprennent. Dieu n'entre pas dans nos logiques humaines. Le Seigneur préfère la petitesse et l'humilité. Et le chemin du bonheur, le chemin du salut, ne commencera pas à Jérusalem, à Athènes, ni à Rome, mais bien dans le désert. Alors cela nous délivre déjà un bel évangile, un beau message. Avoir autorité, être cultivé et célèbre n'est pas une garantie pour plaire à Dieu. Mieux vaut être pauvre intérieurement, comme le désert est pauvre. Et puis, restons sur ce thème du désert. Jean-Baptiste qui prépare la venue de Jésus en ce lieu inaccessible et inhospitalier, rempli de dangers, cela a de quoi nous surprendre. De nos jours, si quelqu'un veut faire une annonce importante, il se rend habituellement dans les beaux lieux, là où il y a du monde. Ou alors, on écrit la nouvelle, on fait une belle vidéo et on la met sur les réseaux sociaux pour faire du buzz. Jean, au contraire, prêche dans le désert. C'est précisément dans ce lieu aride, dans cet espace vide qui s'étend à perte de vue et où l'on ne trouve pratiquement pas de vie. Oui, c'est là que se révèle la gloire du Seigneur qui, comme le prophétisent les Écritures, change le désert en lac, la terre aride en fontaine. Voici donc un autre message réconfortant. Dieu, aujourd'hui comme hier, nous rejoint dans nos déserts, dans l'aridité de nos vies. Il nous rejoint surtout dans les moments d'épreuve. Oui, c'est là que le Seigneur nous visite, car lui seul peut combler nos manques, peut remplir nos déserts. Alors, peut-être certains d'entre nous, nous vivons une période difficile. Peut-être nous avons l'impression de nous trouver dans un désert religieux, un désert politique, un désert affectif, un désert social ou économique. Eh bien, c'est précisément là que le Seigneur nous rejoint, avec des paroles de proximité, de compassion et de tendresse. « Ne crains pas, je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te rends fort et je viens à ton aide. » En prêchant dans le désert, Jean nous montre que le Seigneur veut nous libérer de nos déserts, nous redonner vie. Précisément dans ces situations qui semblent, à vue humaine, irrémédiables et sans issue. Il vient là, il n'y a aucun lieu que Dieu ne veuille visiter. Alors oui, nous pouvons nous réjouir de voir le Seigneur choisir le désert pour démarrer sa prédication, pour annoncer la venue du Christ, car c'est dans le désert qu'il annonce la présence du Christ. La seconde réalité de la vie de Jean-Baptiste dans l'Évangile, c'est son message, un message de conversion. Oui, le cousin de Jésus prêchait la conversion sans relâche et avec force. C'est également un thème qu'il nous faut accueillir. Alors, comme le désert, qui n'est pas forcément le premier lieu où nous voulons partir en vacances, quoique, eh bien, l'invitation à la conversion n'est pas le premier sujet de conversation autour du repas dominical. Parler de conversion peut bien souvent provoquer en nous de la tristesse, car il semble bien difficile de concilier la conversion avec la joie de l'Évangile. Mais bien souvent, c'est parce que l'on réduit la conversion à un effort moral, comme si que la conversion était le fruit de notre effort personnel. Eh bien, c'est bien là le problème, le fait de compter que sur nos propres forces. Cela ne va pas, et nous courons le risque de la frustration. Nous voudrions nous convertir, devenir meilleurs, surmonter nos défauts, changer, mais nous sentons que nous n'en sommes pas vraiment capables. Et malgré notre bonne volonté, nous retombons toujours dans nos travers. Finalement, nous faisons la même expérience que saint Paul, qui nous disait dans la lettre aux Romains, « Ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Par conséquent, si nous n'avons pas par nous-mêmes la capacité de faire le bien, eh bien, en quoi consiste alors la conversion? Eh bien, je suis allé chercher l'origine de ce mot, de conversion. Eh bien, dans l'Évangile, on ne parle pas de conversion, on parle de métanoein. Alors, en français, ça donne « penser au-delà ». La conversion, le mot en grec, il veut dire « penser au-delà ». Finalement, se convertir, c'est aller au-delà de notre façon de penser habituelle, au-delà de nos schémas mentaux. Vous savez, c'est la tentation du « on a toujours fait ainsi, pourquoi changer ?» ou alors ne pas faire l'effort de comprendre l'autre qui pense différemment et de rester auto-centré. En nous exhortant à la conversion, Jean nous invite à aller au-delà et à ne pas nous arrêter en route, à aller au-delà de ce que disent nos instincts et de ce que nos pensées s'imaginent face au doute ou à l'épreuve. La réalité, c'est que Dieu est plus puissant que tout cela. Se convertir, c'est ne pas écouter ce qui détruit l'espérance, ne pas écouter cette petite voix en nous qui nous rabaisse, qui nous dévalorise, qui nous fait croire que devenir saint n'est pas fait pour nous. Il n'en est pas ainsi, parce que Dieu est avec nous, Dieu est là en nous. Il faut lui faire confiance, parce que c'est lui notre force au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et tout change si on lui laisse la première place. Voilà ce que signifie la conversion. Il suffit que notre porte soit ouverte au Seigneur pour qu'il entre et fasse des merveilles, comme dans le désert où les paroles de Jean ont attiré à lui des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Alors, oui, demandons la grâce de croire qu'avec Dieu, les choses changent et changent véritablement, qu'il peut guérir nos peurs, guérir nos blessures, transformer les lieux arides de nos vies en fontaines intarissables. Oui, demandons, alors que nous apprêtons à entrer dans l'année jubilaire, demandons la grâce de l'espérance, car c'est l'espérance qui ranime la foi et ravive la charité. C'est l'espérance qui fleurit les déserts du monde. Alors, demandons en cette fête de l'Immaculée Conception, demandons à Marie, notre Mère, la Toute Sainte, de nous aider à être comme elle, des témoins d'espérance, des semeurs de joie autour de nous. L'espérance, chers amis, ne déçoit jamais. Elle ne déçoit jamais. Non seulement lorsque nous sommes heureux et ensemble, mais aussi les jours où nous sommes dans le désert. Parce que c'est là, avec la grâce de Dieu, que notre vie est appelée à la conversion. Là dans nos déserts intérieurs, dans nos lieux où la vie n'est pas trop présente, que la vie est appelée à refleurir. Oui, que le Seigneur, en ce deuxième dimanche de l'Avent, continue à nous préparer à la venue du Seigneur et que le Seigneur lui-même nous donne la grâce et le courage d'accueillir son espérance. Amen.